France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
La manifestation de samedi l'a prouvé une fois de plus. Il est devenu difficile de manifester en France, encore plus de le faire avec des enfants comme on pouvait le faire précédemment. Les choses samedi se sont passées comme désormais souvent. Et on l'avait vu pendant les défilés loi travail, donc tout ça date de bien avant les gilets jaunes. Une manif est infiltrée par des ultras, des black blocs, peu importe comment on les appelle. Très vite, tout le monde se tend et la police envoie du gaz lacrymogène dans le tas, c'est-à-dire aussi sur les manifestants tranquilles. Même Greenpeace hier s'interrogeait entre les perturbateurs et les réponses musclées de la police. Faut-il prendre la responsabilité d'organiser une marche? Mais il y a une autre question derrière tout cela. Est-ce que de toute façon ça marche? Est-ce que la manif n'est pas devenue une méthode de papa? N'y a-t-il pas une autre forme de lutte plus efficace, plus jeune, plus visuelle? La désobéissance civile n'est pas une arme nouvelle, mais elle revient en force. Les décrocheurs ont eu une audience finalement plus importante que les slogans d'un cortège, les sittings sur les ponts, les actions en mode flash mode, les tarmacs bloqués et les ados, même les enfants. C'est bien le visage d'une ado, après tout, que l'on aime ou pas, qui incarne le climat aujourd'hui, pareil pour la lutte contre les armes aux États-Unis. Autre lutte, c'est aussi autre méthode. Est-ce que lutter aujourd'hui, c'est aussi se radicaliser pour aller plus vite? À chaque fois, en tout cas, le point commun, c'est peut-être que dans toutes ces nouvelles formes de lutte, on échappe à un encadrement syndical, à un encadrement politique. De la protestation en démocratie, c'est le thème du téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, Henriette, c'est vous la première. Soyez la bienvenue. Bonsoir, Henriette.
Bonsoir.
Allez-y, donc, on vous écoute.
Oui, alors je me suis je suis très étonnée d'avoir vu la façon dont la question a été posée donc sur les réseaux. C'est pour cela que j'ai réagi. À mon sens, la question est très très mal posée. Pardon, Fabienne Saint-Esse.
Je vous en prie, mais rappelez-moi comment je l'ai posée déjà.
Oui, vous avez posé la question comme ceci. Comment manifester en France aujourd'hui?
D'accord.
Comment manifester? Voilà, comment D'accord. manifester en France aujourd'hui? Je ne sais pas si c'était exactement ça. Moi, je considère que là, ce n'est pas la bonne question. La question est, peut-on encore manifester en France aujourd'hui?
Je crois que c'était ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave, Henriette. Je vous en prie, continuez. Pardon de la mauvaise formulation.
Voilà, je suis quelqu'un qui a toujours manifesté, voilà, depuis mon plus jeune âge, j'allais dire, avec ou sans papa et maman, avec ou sans mes enfants. Précisément, je trouve qu'il y a eu un virage de la peur, que j'appellerais de la peur, qui s'est situé pendant la manif des Gilets jaunes, entre mars et avril, alors que j'allais régulièrement sur les ronds-points voir ce qui se passait et que je participais aux manifestations, comme je participe à une manifestation demain contre la réforme des retraites, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai vraiment senti, et je me le suis appliqué à moi-même, que ça devenait dangereux, donc je ne suis plus allée dans la rue, je ne suis plus descendue. Et ce ne sont pas que les Black Blocs qui me font peur. Voyez-vous, j'étais
C'était
à Paris,
ça ma question. Est-ce que vous dites que c'est les deux, c'est à la fois les Black Blocs et aussi la police? C'est ça que vous dites, Henriette?
Je dis que c'est une peur. Alors, oui, je dis que la police me fait peur. Je l'ai vu de mes yeux vus à Paris et le jour où M. Rodriguez s'est pris un flashball dans l'œil. J'étais pas très loin. J'ai arrêté de manifester parce que au moment même où il disait aux gens qui le suivaient qu'il fallait se calmer, rester tranquille, ne pas bouger, alors, il se reçoit un LBD dont on sait ensuite qu'il lui a crevé un œil. Donc oui, je considère que pendant ces manifs-là précisément, on a eu peur comme jamais et que c'est bon. Après, le rôle des télés mainstream qui nous mettent de la voiture qui brûle en permanence, ou de la voiture agressée, bon. Et puis je pense aussi, pour être très honnête, que les Black Blocs, dont je ne nie pas l'existence, hein, ne peuvent pas, ne doivent pas pouvoir se déplacer à 1000, comme ça a été le cas ce week-end, sans qu'on puisse les arrêter avec 7000 policiers. Voilà. Je pense que parmi eux, il y a des éléments, on va dire, incontrôlés, ou au contraire, très très contrôlés, qui ne sont pas des Black Blocs, mais ouais, peut-être même des... Voilà, des membres de forces de l'ordre, quoi, pour le dire comme je le pense.
D'accord, sans qu'on puisse dire ni affirmer quoi que ce soit de ce genre officiellement. On a compris ce que vous nous disiez, en tout cas, sur votre appréhension, on va dire, à aller manifester désormais. Merci beaucoup, Henriette, pour votre question. Pour y répondre et pour débattre ensemble jusqu'à 20h, Cécile Marchand est là. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Action non violente COP21. Vous faites partie de ceux qui ont été jugés, notamment pour décrochage. Bonsoir, Yann Lelanne. Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Lille et coordinateur de Quantité Critique. On passera un coup de fil tout à l'heure à Flore Vasseur, qui est réalisatrice, qui prépare un documentaire qui s'appelle Bigger Than Us et qui suit, elle, toute une autre forme d'activisme, ce qui sont les très jeunes activistes, justement, ce qui est un peu dans l'actualité. En ce moment, j'ai envie de commencer avec vous, Yann Lelanne, sur ce que disait Henriette et sa peur désormais. Je vais reprendre la formulation qui était la mienne. Comment peut-on manifester ou peut-on encore manifester aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire d'abord que de toute façon, oui, aujourd'hui, on ne manifeste plus comme on manifestait avant, en gros. C'est terminé cette période-là, ou pas?
Alors, bon, déjà, peut-être, il faut rappeler que, alors, déjà, c'est bien de commencer avec Henriette, parce qu'elle permet de remettre un peu de recul sur cette histoire. Mais il faut peut-être avoir aussi en tête qu'il y a eu toute une série de mobilisations qui se sont déroulées depuis le mois de septembre et qui se sont extrêmement bien déroulées. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est d'où la surprise par rapport à la mobilisation de ce week-end. Mais ça fait des mois et des mois que les gens sont mobilisés pour le climat et où il n'y a pas eu les questions auxquelles on est confronté aujourd'hui. Ensuite, ça, c'est le premier point. Ce qui montre, par ailleurs, que la mobilisation par la manifestation reste un acte qui est plébiscité par de très nombreux Français et Françaises, et donc qui souhaitent pouvoir ou vouloir défendre, et Henriette en est le témoignage, le droit à manifester.
La manif n'est pas morte.
Voilà, la manifestation est loin d'être morte, et d'ailleurs le mouvement climat en est, comme d'ailleurs les Gilets jaunes, en sont une expression. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ces troubles, désormais, à l'intérieur du mouvement, il y a une question autour de leur genèse qui est posée. Puisque là, on s'aperçoit dans les événements de samedi qu'une série de points de rencontre ont été interdit par la préfecture, que finalement l'ensemble de ces points de rencontre ont convergé. Bref, les conditions pour que la mobilisation se développe de façon pacifiste, non violente, etc., n'ont pas été réunies. Et y compris, il y a de très nombreux acteurs au sein de la mobilisation climat qui aujourd'hui interrogent la responsabilité de la préfecture de Paris dans le fait que la mobilisation ait pu dériver
méthode,
vers des formes.
C'est ce que j'ai dit, c'est la méthode en fait, effectivement, qui a été mise en cause, notamment par Greenpeace.
Mais finalement, tous les points de convergence, gilets jaunes, mouvements écolos, ont été interdits par la préfecture, alors qu'on sait que c'est des points sur lesquels il y a des parties du mouvement écologiste qui sont absolument attachées à cette nécessité de la convergence. Donc, finalement, pour garantir le droit à manifester, il faut aussi un cadre légal et une application de ce cadre légal par les forces de police qui permettent son plein déploiement. Et on voit là qu'il y a peut-être un usage des règles du maintien de l'ordre qui sont réalisés par le gouvernement pour essayer de déstabiliser le mouvement. Et c'est l'hypothèse qui est développée par de très nombreuses personnes à l'intérieur du mouvement.
Déstabiliser plutôt du côté des Gilets jaunes, pas forcément déstabiliser du côté des manifestants climat, ou les deux, à votre avis, Cécile Marchand?
A priori les deux quand même, parce que la façon dont c'est passé... soi-disant le maintien de l'ordre samedi, j'appellerais plutôt ça une provocation du désordre de la part des forces de l'ordre. Donc certes, il y a une poignée de personnes qui ont décidé de provoquer des dégradations matérielles et de ne pas respecter le consensus qui avait été posé par les organisateurs de la marche, mais d'y répondre en voyant des personnes se préparer, en laissant ces personnes provoquer ces dégradations matérielles et finalement en ayant pour seule réponse de décider de lancer des grenades de désencerclement et de gazer tout le monde sans distinction. On ne peut pas appeler ça des techniques de maintien de l'ordre. Et en plus d'avoir derrière ça une ministre, une secrétaire d'État à l'écologie qui se félicite de la façon dont a été sécurisée la manifestation, en fait ça pose grandement question sur les techniques de maintien de l'ordre.
Je me souviens de cette phrase, c'était « il n'y a pas eu de LBD lancé samedi ». C'était aussi l'une des manières de dire que finalement les choses s'étaient mieux passées qu'elles ont pu se passer lors de manifestations différentes. Cela dit, est-ce que pour vous... Pardon Cécile Marchand, vous avez quel âge ?
24 ans.
24 ans. Est-ce que la manifestation fait partie aujourd'hui d'une forme de protestation, ou est-ce qu'on sait, et j'ai presque envie de dire, et pardon, je sais que je vais déjà recevoir du courrier, mais par rapport à samedi, peu importe au fond la responsabilité de qui et de quoi à ce moment-là sur cette manif, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment, vous, activiste à 24 ans, que c'est quelque chose qu'il faut faire, que ça a de l'efficacité, que ça a du sens d'aller manifester, ou pas ?
ça a du sens quand c'est ancré dans une stratégie de lutte non violente bien plus large. En fait, la manifestation, c'est pas un mode d'action à mettre à la poubelle aujourd'hui. Au contraire, c'est des moments importants qui permettent de notamment montrer le nombre, d'aller faire rentrer plein de nouvelles personnes dans le mouvement climat. Aujourd'hui, il y a de nombreuses personnes dans le mouvement climat qui font des actions de désobéissance civile.
On recrute pendant une manif, par exemple.
Bien sûr, ouais. Ce qui font des actions de désobéissance civile en allant dans un premier temps marcher, en fait. Ces marches, elles sont pas à mettre à la poubelle, l'enjeu n'étant pas de faire des marches pour faire des marches, c'est de les placer au bon moment quand ça a un sens, de vouloir se compter, et puis d'aller développer d'autres modes d'action à côté.
Il y a ce courrier sur franceinter.fr qui m'intéresse, c'est pour vous, Yann Le Lan, qui dit « Je ne manifeste plus depuis très longtemps, j'ai adhéré à un parti politique, j'ai été élu municipal, j'ai cofondé des associations et il me semble que j'ai été plus pertinent pour exprimer mes convictions. » On a entendu Cécile Marchand dire que même à 24 ans, elle y va, mais au fond, est-ce qu'il y a, y compris dans la forme de la manif, est-ce qu'il y a un vrai fossé générationnel entre les anciens et la nouvelle génération, même dans la rue pour le coup ?
Alors, nous, les données qu'on a construites à ce propos montrent plutôt des formes de solidarité générationnelle. C'est-à-dire que dans ces mobilisations, on va trouver à la fois des personnes qui ont une grande expérience politique, plus âgées, et des personnes très jeunes. En fait, la manifestation, elle peut être critiquée si elle est l'horizon unique de l'action, mais en fait, elle est très pratique pour symboliser quoi ? Pour symboliser le collectif mobilisé. Pour mobiliser, vous avez utilisé le terme de masse, le fait qu'on est nombreux à pouvoir avancer autour d'une cause. Là-dessus, la manifestation reste très efficace. Mais après, à l'intérieur de la mobilisation, elle va être utilisée par certains manifestants comme une sorte de marche-pied pour aller vers des stratégies d'occupation, vers des stratégies de blocage, vers des stratégies de désobéissance civile, ou par d'autres pour conscientiser vers des formes de gestes du quotidien. Bref, la mobilisation, elle a des horizons stratégiques qui sont différents suivant les personnes qu'on enquête. Par contre, là où il faut reconnaître quelque chose, elle est le point commun. Elle est aussi ce qui fait l'unité de ce mouvement. Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, après il y aura un débat qui s'ouvrira pendant les mois qui viennent, jusqu'aujourd'hui, elle était vraiment la symbolisation de l'unité du mouvement, malgré le fait qu'il pouvait y avoir une diversité de positionnement.
Et au fond, mais est-ce qu'elle l'est encore, en fait ? Est-ce qu'elle symbolise réellement encore ça ou pas aujourd'hui ? Quand on les voit regarder même samedi dans la rue, il y avait donc un cortège gilet jaune le matin, alors qu'il a essayé de rejoindre effectivement la manif climat, mais il y avait un mouvement de FO à un autre endroit. La manifestation pour les retraites, ce sera demain, il y en aura une autre. Donc au fond, on a l'impression que de toute façon, y compris dans la rue, en fait, chacun reste dans son précaré. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on va chercher du coup d'autres formes de lutte pour essayer d'avancer, non, Yann Le Lan ?
Alors là-dessus, peut-être il faut desserrer le regard par rapport à ce qui s'est passé à Paris, parce que évidemment le mouvement est un peu traumatisé par ce qui s'est passé lors de la dernière mobilisation. Mais après, c'était une journée d'action internationale. Il y a eu des mobilisations monstres, manifestantes sur l'ensemble de la planète. Si vous regardez ce qui se passe à New York, si vous regardez, et donc le mouvement français, il est aussi tributaire de d'un registre d'action qui le dépasse. Et donc moi, je crois que bien sûr, il va y avoir le fait de trouver d'autres formes de mobilisation, que ça, c'est toujours une question qui se pose. D'ailleurs, c'est une question qui se posait avant ce qui s'est passé samedi. Il faut bien voir que la rentrée, telle qu'elle s'est réalisée là, avec la suite d'événements, l'ensemble des participants au mouvement s'interrogeaient sur la possibilité d'investir d'autres registres d'action. Donc ça, c'est une question qui était là avant l'arrivée des mouvements autonomes et qui sera encore sur la table après leur intervention de samedi.
Et qui était là, effectivement, avant l'arrivée des mouvements, qui était là, je le disais, avant les Gilets jaunes. Quand on a commencé à se poser cette question, on se l'a posé au moment de la loi travail, le début de la loi travail, j'allais dire. Donc ça commence à faire un bout de temps, effectivement, que cette question se pose, qui n'a pas émergé, on va dire, en même temps que les Gilets jaunes. Sylvie, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Sylvie.
Oui, bah justement, je voudrais réagir sur ce que vous venez de dire là. La question n'a pas attendu, effectivement, aujourd'hui pour se la poser. Elle s'est même posée aussi déjà au mouvement des retraites en 2003-2010. Et je pense qu'il est important de varier les modes d'action. On a vraiment besoin de multiplier les modes d'action. Chacun va y trouver sa place. Et la manifestation de masse, comme disait l'interlocuteur tout à l'heure, c'est un moyen de montrer que l'engouement, le nombre de personnes qui sont d'accord avec les idées. Mais à un moment donné, chacun ira peut-être employer un autre mode d'action, désobéissance civile, le blocage d'un péage, pétition, action judiciaire, etc. Et moi, je trouve que c'est important de multiplier ces modes d'action.
Oui, vous êtes syndicaliste, Sylvie, si je ne m'abuse, non ?
Tout à fait. Oui.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même, parce que c'est ce qu'on entend aussi, et y compris on demandera à Cécile Marchand dans un instant, que vos méthodes à vous, en fait, les anciennes méthodes n'ont pas suffisamment porté leurs fruits. Et c'est pour ça qu'on a besoin précisément de diversifier les modes d'action.
Oui, mais...
Est-ce que vous sentez des fois largué, pardon Sylvie de le dire comme ça, mais est-ce que des fois vous vous sentez largué ?
Non, alors personnellement non, clairement, parce que bon, moi j'ai participé à d'autres, à différentes actions, je pense à Notre-Dame-des-Landes notamment, donc je pense que il faut pas chercher, je trouve qu'au niveau des syndicats on cherche souvent à être tous d'accord avant de faire quelque chose. Ben, on n'a pas forcément d'être tous d'accord.
Dieu sait que vous êtes rarement d'accord, si je puis me permettre.
Je pense qu'il ne faut pas s'interdire certains modes d'action, quoi. Voilà, à certains moments. Je pense, des fois, on a trop peur de gêner les gens. Alors, on ne va pas bloquer parce qu'on a peur de gêner. Mais si on gêne personne, si on bloque rien, à un moment donné, on n'obtient rien. Parce que ça devient quand même de plus en plus difficile d'obtenir quelque chose, même y compris dans l'entreprise. On voit bien que la négociation, au bout d'un moment, ça ne sert à rien. Honnêtement, ça devient de plus en plus compliqué d'obtenir quelque chose par la négociation.
Merci.
Donc, il faut monter le niveau d'action, quoi.
Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre question. Sylvie, il y a beaucoup de choses dans Sylvie qui m'intéressent chez vous, Cécile Marchand. D'abord, effectivement, la négo, ça sert à rien. Est-ce que c'est ça aussi que vous vous dites, vous, dans le type d'action, que ce soit du décrochage ou autre chose, en fait, au fond, la négo, ça sert à rien. En tout cas, c'est pas le bon système, pas maintenant ou plus maintenant, je sais pas.
Non, l'enjeu, c'est de savoir dans quelles conditions on va provoquer la négociation et quel rapport de force on aura mis en amont pour pouvoir être en position de négocier d'une façon ou d'une autre. Et en tout cas, nous, si on développe la désobéissance civile, et, enfin, en tout cas, si on considère la désobéissance civile comme un moyen, un mode d'action complémentaire à d'autres dans une stratégie non-violente bien plus large, c'est parce qu'on pense que, justement, la désobéissance civile et l'action non-violente, elle va permettre de pointer, de poser le conflit dans la société, de montrer une situation d'anormalité, ce que ne peut pas forcément faire une marche climat. Après une marche climat, un gouvernement peut se féliciter d'avoir des milliers de personnes dans la rue. Après un décrochage des portraits d'Emmanuel Macron, un président ne peut pas se féliciter d'avoir des gens qui le poussent, soi-disant, à faire mieux ou à faire mieux. Donc l'enjeu de la désobéissance civile, c'est de pouvoir pointer l'anormalité d'une situation, l'injustice d'une situation, et de pouvoir derrière de légitimer les revendications.
Et en même temps, il y a quelque chose sur lequel peut-être vous vous retrouvez avec Sylvie, parce qu'elle dit, parfois on a peur de déranger, et j'imagine ce que ça peut être, parce qu'on sait ce que c'est qu'une grève RATP ou autre chose, donc j'imagine que des discussions sur comment cette grève va être reçue, doit y en avoir beaucoup. Vous, on a l'impression que vous êtes quand même dans le même créneau, parce qu'au fond, l'image, vous l'avez, puisqu'on vous voit avec les portraits décrochés, et en même temps, vous ne dérangez personne. Donc au fond, est-ce que ça aussi, on y songe, ou est-ce qu'on se dit que, pour l'instant, on dérange personne, le décrochage, voilà ce que ça fait une image, et ça fait un symbole, mais la phase 2, c'est de commencer à déranger, est-ce qu'on se pose cette question-là ou pas ?
Non, à travers les actions de décrochage de portraits et d'autres actions de désobéissance civile qu'on vient faire, d'occupation de banque, d'occupation à la défense, etc., etc., c'est qu'on vient, perturber. L'enjeu, quand on décide d'entrer dans une stratégie non-violente, c'est de pouvoir à la fois provoquer la perturbation, tout en créant les conditions de dialogue qui permettent quand même de à la fois faire bouger les rapports de force, mais aussi les rapports de conscience. Non, je pense pas qu'à travers les actions de décrochage, on n'a pas perturber le gouvernement,
bien au contraire,
parce que, et notamment ce qui s'est passé avec la décision du tribunal de Lyon de relaxer deux décrocheurs de portraits, c'est apporté une énorme perturbation dans le débat public.
Mais la décision crée plus de perturbation que le décrochage, là-dessus je vous suis, mais c'est bien ce que je disais, effectivement, pour moi, décrocher, c'est pas perturber, puisque vous gênez pas la circulation, vous n'empêchez personne d'entrer, ni de sortir, ni etc., donc en cela...
En tout cas, sur ce type d'action-là... on peut considérer que c'est une action symbolique qui est venue perturber, mais par contre, on développe plein d'autres modes d'action qui vont à la perturbation.
Yann Lelanne, je vous ai vu prendre des notes pendant que parlait Cécile.
Oui, simplement, elle dit quelque chose qui, à mon avis, témoigne de l'origine de ces stratégies. Elle dit, par la négociation, on n'obtient rien.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si on prend par exemple le mouvement des Gilets jaunes, l'une des premières questions que nous sommes allés leur poser, c'est, ok, vous demandez des hausses de salaire, pourquoi vous ne le faites pas à l'échelle de l'entreprise ? Pourquoi vous ne le faites pas à travers la mobilisation syndicale, etc. Et là, on a été vraiment saisi par les résultats obtenus. Il y a l'idée très présente parmi les salariés que le cadre classique institutionnel ne permet plus d'obtenir d'améliorer les conditions salariales des personnes. Alors, y compris, on s'aperçoit que ce cadre, il a été très largement détruit par les réformes. On parlait de la loi travail tout à l'heure. C'est ce mouvement de décentralisation de la négociation salariale. Il a provoqué une forme de d'impossibilité de la négociation, puisqu'il a mis le niveau de la négociation au niveau des endroits où les salariés étaient le plus faibles pour pouvoir négocier. Et donc, ces stratégies qui contournent le cadre institutionnel, en fait, elles s'expliquent par la destruction des logiques d'arbitrage de classe, par exemple sur les salaires. Ça, c'est la première chose. Et puis, sur l'écologie, elles s'expliquent tout simplement parce qu'il n'y a pour les manifestants, pas le temps. Et donc, ce n'est pas, ils ne demandent pas une négociation, ils demandent une bifurcation. Et donc, de ce point de vue-là, ils s'autorisent des registres qui sont totalement différents de ceux qu'on s'autorise pendant une négociation.
Et c'est pour ça que je vous posais la question du côté générationnel ou pas, en fait, de la manifestation, parce que clairement, il y a aussi des vieux, il y a aussi des adultes, il y a aussi tout ça dans les manifs climat, mais il y a un mouvement qui est porté aussi par autre chose et qui a une moyenne d'âge qui est évidemment beaucoup plus basse, donc il y a une urgence chez ces jeunes-là qui est différente de la vôtre ou de la mienne, en fait.
Oui, alors c'est vrai, je suis plus si jeune que ça, vous avez raison, mais...
Et moi non.
Simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a malgré tout une transmission, c'est-à-dire que on peut supposer que ces jeunes qui investissent ces nouveaux registres, ils vont eux-mêmes peut-être rebasculer vers d'autres formes, qui peuvent être tout aussi rebelles, etc. Mais ils ont une disponibilité biographique à ce moment-là pour des mobilisations de très forte intensité. Mais simplement, ils sont pas si différents que leurs aînés, qui eux-mêmes d'ailleurs ont très largement pratiqué des formes de désobéissance civile par le passé.
On va y revenir dans un instant, mais puisqu'on est sur les très jeunes gens, je voudrais qu'on écoute Flore Vasseur un instant. Bonsoir Madame Vasseur.
Bonsoir.
Vous êtes réalisatrice, vous revenez de New York, vous faites un documentaire qui s'appelle Bigger Than Us, et justement ce sont des enfants activistes que vous suivez, des gens qui sont très jeunes. Alors au-delà même du cas de Greta Thunberg, est-ce que vous avez vous le sentiment que ce qu'ils vous disent, eux, ces très jeunes gens, où qu'ils soient, c'est que leur parole à eux, leur force à eux, sera finalement supérieure à celle que nous avons nous?
Oh, je ne sais pas s'ils sont dans un comparatif, je pense que vous l'avez évoqué, ils sont dans l'urgence absolue de se faire entendre, à savoir si ça sera plus efficace qu'avant, c'est pas leur sujet, ils veulent survivre. On les entend pas, c'est les grands absents des politiques publiques depuis des décennies. Et là, on a une génération qui arrive, qui est très informée, qui a ses propres techniques d'information, d'information, qui maîtrise l'Internet mieux que nous pour le pire et le meilleur, et qui court-circuite totalement les messages des adultes et aujourd'hui de l'école, et qui fait ce constat implacable d'une inadaptation totale de nos politiques, de nos discours, de notre façon, de notre système, à la vie. À la vie simplement, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose d'une revendication politique. Là, ils sont, aujourd'hui, cette génération comprend qu'en fait, c'est le sort de l'humanité qui est en jeu.
Quand, y compris, et qu'est-ce qu'ils en disent? Parce que c'est des questions, peut-être que c'est des questions de nos âges à nous, au fond, par rapport à eux, et qu'ils le balayent, mais y compris quand on parle, par exemple, d'instrumentalisation, ou au fond, je vais le dire comme ça, Flore Vasseur, quand l'un de ses enfants va rencontrer un grand de ce monde, que ce soit un président ou un ancien président, on fait une photo, très bien, est-ce que ça va réellement bien au-delà? Donc est-ce que la puissance, au fond, de cette forme-là, celle des plus jeunes, a plus de garanties d'aboutir qu'une autre?
Je ne sais pas si elle a plus de garanties, je pense qu'il faut tout essayer. Sur la question de la manipulation,
ouais,
et de la récupération.
Et de l'instrumentalisation, oui, c'est ça, ouais.
Bien sûr, c'est un danger énorme. Mais alors, je suis moi-même très en conflit avec ça, parce que je vois que ce que j'entends, et donc on ne voit que ce que les médias et les algorithmes nous filtrent. Et j'ai eu beaucoup de chance, effectivement, ces trois derniers jours, puisque j'étais à New York et j'ai assisté à plusieurs choses assez hallucinantes. D'abord, cette grève pour le climat à New York. Ils avaient prévu 10 000 manifestants, ils étaient 300 000. C'était impeccable. Bon, c'est aussi à l'américaine, hein. C'est pas un syndicalisme déployé, c'est pas la fête, c'est très rythmé, processé, voilà, personne ne déborde, et les autorités sont à cran Et pour le coup, pour qu'il n'y ait pas de problème, parce que après tout le monde tombe sur la police. Donc j'ai vu ça, j'ai vu Greta, qui donc est effectivement cette personnalité qui aujourd'hui est le fer de lance de cette bataille-là. Mais moi, je suis là pour vous dire aujourd'hui qu'elle n'est pas du tout la seule sur le climat, mais aussi sur toutes les autres thématiques qui sont complètement liées. Les inégalités, l'éducation, les conditions des filles, la corruption, la démocratie, enfin c'est un phénomène qui se répand. Donc aujourd'hui tout le monde est intéressé par elle. Moi c'est peut-être la personne qui m'intéresse le moins. Mais quand même je voudrais juste insister sur quelque chose.
Allez-y.
Son premier message ça a été de dire à vous qui venez nous voir pour nous prendre en photo, pour nous dire que nous sommes admirables et qui derrière nous, après, une fois que nous sommes partis, ne faites rien, on vous a vu. Elle vient de parler à l'ONU aujourd'hui. Mais je vous conseille de regarder son discours.
Oui, on l'a diffusé sur France Inter.
De violence à l'égard de ce système qui veut la récupérer. Alors vous allez me dire, c'est la récupération de la récupération. Mais je veux dire, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une bataille pour le pouvoir en fait aujourd'hui. Et à New York, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait effectivement une manifestation. Il y avait en plus une grève de l'école. Quand même, c'était un geste de désobéissance civique premier pour tous ces jeunes qui se politisent à travers ça. Et surtout, il y a l'Assemblée générale de l'ONU, où Greta Thunberg est l'invitée d'honneur de ce truc. Et elle est absolument consciente d'être dans un exercice de manipulation. Mmh. Et donc, il y avait un premier sommet samedi avec les jeunes. Donc, l'ONU a fait une Assemblée générale des vieux, j'ai envie de dire, qui a démarré aujourd'hui. Ah ouais. Et elle a fait une Assemblée générale des jeunes. Et c'était mais absolument ridicule. Mmh. C'était une farce. Et la première chose que Greta a dit, c'est « Je ne vais pas parler ici puisque je parle déjà lundi. » Donc, et en fait, on est en train, nous, les médias, de gommer absolument l'irrévérence de cette personne et la violence de son propos à l'égard du système.
Flore Vasseur, merci beaucoup. Merci vraiment, pardon de vous interrompre. Je voudrais qu'on continue à pouvoir entendre des gens. On se rappellera et on se rappellera au sens propre du terme lorsque votre documentaire qui s'appelle Bigger Than Us sortira. J'aimerais bien vos points de vue rapidement là-dessus, Yann Lelanne, sur le pas seulement, c'est pas de Greta Thunberg qu'on parle en particulier, c'est sur le rôle des enfants, en fait, dans ces nouvelles formes d'activisme, parce qu'effectivement, il y en a eu quelques-uns qui sont sortis ici et là. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que effectivement on manipule beaucoup dans cette affaire ?
Non, mais enfin, ça a été très efficace. Il faut le dire. La mobilisation autour du slogan, elle peut être jugée naïve, mais simplement les enfants contre les adultes, y compris avec beaucoup d'adultes qui s'estiment être du côté des enfants, ça a été extrêmement efficace. Moi, ce que je trouve d'ailleurs, c'est que ça a obligé. On a vu les controverses, Greta Thunberg contre Sarkozy, Greta Thunberg contre Trump. C'est une forme de victoire. Maintenant, je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment. Ça a déclenché un mouvement très profond, et on voit pas à quel point ces enfants ont réussi à déclencher une bataille idéologique très très profonde, mais qui s'est déplacée de la question des personnalités, bien sûr, toutes les attaques que subit Greta Thunberg, mais il y a aussi, ils ont obligé toute une série d'industries à réagir. Ça a été peu commenté, mais par exemple l'industrie aéronautique a fait une campagne à travers la presse économique pendant tout l'été pour essayer de justifier le fait que l'avion propre était en train d'arriver, qu'il fallait pas s'énerver, qu'il fallait pas boycotter. Tout ça, c'est aussi le fruit d'un mouvement qui a commencé maintenant il y a plusieurs mois, mais dans lequel ce slogan « les enfants contre les adultes » a eu, même s'il est réducteur, une efficacité assez importante quand même.
C'est un collègue à vous, Cécile Marchand, qui nous appelle. Bonsoir Jean-Marc.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Donc moi, je fais partie d'un petit groupe qui fait des actions contre la bombe atomique depuis 7 ans à Dijon. Et cette année, on a décroché le portrait du président de la République, M. Macron, donc avec deux raisons. Donc la raison que j'appelle historique, c'est obtenir des actions exemplaires ou au moins efficaces pour le climat. Et la deuxième, donc qui est nouvelle, c'était pour qu'en tant que chef des armées, il signe et ratifie le TIAN. Donc le TIAN, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui a été voté par l'ONU en 2017 et qui sera applicable dès que 50 pays l'auront ratifié. Donc il y a un communiqué de presse sur le site des Amis de la Terre Côte d'Or. Okay. Et puis... l'arme nucléaire et le climat, c'est les deux dangers principaux auxquels sont soumis l'humanité. Donc la dérive climatique et puis une explosion nucléaire, soit volontaire, soit accidentelle, soit par folie.
Et vous avez l'impression, vous, dans votre forme d'action, Jean-Marc, que vous pesez sur ces décisions-là, ou pas. En quoi cette forme d'action, j'imagine qu'il n'y a pas que celle-là, en quoi cette forme d'action-là permet de peser?
C'est un peu une question d'image. Avec les images ou des photos, on arrive à faire évoluer un peu les mentalités. Et là, le rôle des médias, moi je le salue toujours, il est très important quand les médias informent sur tous les sujets. Parce que malheureusement, moi je trouve que les gouvernements ou des ministres, leur rôle principal, c'est de retarder vraiment au maximum les solutions. Que ce soit sur la santé, sur le glyphosate, sur tout. Il y a des solutions, mais il y a une inertie terrible des sociétés à les appliquer.
Et d'où la nécessité, pour certains en tout cas, et qu'on écoute ce soir, de faire ce genre d'action. Jusqu'où se mettre en danger? Est-ce qu'il y a une limite, Cécile Marchand? Le danger judiciaire, donc là on parle pas d'un danger de se faire mal, on parle d'un danger judiciaire. Comment ça se discute ça? Comment ça s'appréhende, on va dire? Est-ce qu'on y pense ou pas du tout en fait?
Si, totalement. On part en action en ayant conscience à la fois des risques juridiques, mais aussi des potentiels risques physiques qu'on prend. Après, dans une action, il y a toujours différents rôles. Et en fonction justement du degré de risque physique ou de risque juridique qu'on est prêt à prendre, on a aussi des rôles plus ou moins engageants, entre guillemets, à donner aux gens. Et on a aussi développé différents registres d'action. C'est pour ça que ne partent pas que en action non violente les gens ultra déterminés, prêts à aller en prison et à se prendre du gaz lacrymogène, en fait. L'enjeu étant aussi de développer des modes d'action qui permettent un maximum d'inclusivité, qui flirtent potentiellement avec l'illégalité. Donc
mais est-ce que c'est à ça qu'on réfléchit? On se dit, je vais flirter un peu et au fond, ce que je risque, ça existe, mais c'est pas si important que ça. Attention à pas aller au-delà de cette limite-là parce que ce sera peut-être plus compliqué judiciairement. Comment ça se traduit? Au fond, le premier qui dit, chiche qu'on décroche les portraits d'Emmanuel Macron, ça part de quelle discussion ce genre de choses en fait?
Ça part de discussion collective, mais aujourd'hui c'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui sont prêtes à avoir un casier judiciaire, passer en procès, potentiellement aller en prison, face à l'urgence climatique. Et aujourd'hui, c'est des centaines et des centaines, par exemple, de décrocheurs de portraits, mais il y en a plein dans d'autres actions, dans d'autres cadres, qui aujourd'hui sont, et ils vont en connaissance de cause, en fait.
Et vous êtes même formés pour ça, d'ailleurs. Vous savez comment répondre aux policiers, comment répondre aux juges, qu'est-ce qui se passe en cas de garde à vue, c'est des choses que vous savez faire, normalement.
Bien sûr, c'est ce qui fait partie, notamment, des formations à l'action non-violente qu'on organise. Mais,
Vous la prof de ça, vous apprenez aux gens comment se comporter.
Je suis en partie formatrice, mais en fait, face aux perspectives du dérèglement climatique, à l'impact que ça peut avoir sur nos vies, à l'impact que ça a déjà d'ailleurs aujourd'hui, finalement, l'idée de se dire je passe en procès, je vais en prison ou j'ai un casier judiciaire, elle apparaît secondaire par rapport à ces impacts-là.
Yann Le Nain, est-ce que ça c'est nouveau ou pas du tout? Enfin, je veux dire, parce qu'on n'a pas inventé la désobéissance civile, on la réinvente en ce moment. L'idée de se dire je peux assumer le casier judiciaire, je peux assumer la prison, je sais pas, mais en tout cas le passage devant un tribunal, etc.
Alors évidemment c'est pas nouveau, par contre ce qui est vrai c'est qu'il y a peut-être là un moment politique un peu particulier puisque il y a la conjonction de plusieurs phénomènes qui peut amener à une forme de développement de ce type de pratique.
Il y a longtemps qu'il n'y avait pas une cause, on va dire, qui autorisait ce genre de choses.
Voilà, pour le grand nombre. C'est est-ce que le grand nombre est capable de s'engager à l'intérieur de ce type de ou de soutenir ce type de pratique. C'est la conjonction du fait qu'il y a une communauté scientifique qui se met d'accord autour de l'idée qu'on a un délai extrêmement court pour réagir, et de l'autre, de l'inaction de la démocratie institutionnelle telle qu'elle fonctionne. Une fois que une partie de la population est consciente de ces deux phénomènes, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas dans la négociation, on n'est pas dans l'arbitrage, on est dans la quête d'un changement radical de société, et surtout, la démocratie n'est pas équipée. L'État de droit tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas équipé pour pouvoir faire face. Donc, cette génération, dans cette conjonction qui allie inaction politique de la démocratie telle qu'elle se fonctionne aujourd'hui avec cette expertise scientifique qui donne un délai très court pour la réaction, eh bien, ça crée l'opportunité. Alors, tout le monde ne participe pas à la désobéissance civile. Par contre, ce qu'on a réussi à montrer, c'est qu'il y avait un très large consensus dans les marches pour soutenir ceux qui y participaient. Et donc, le mouvement négocie sans qu'il y ait d'arène très précise pour pouvoir négocier, une sorte de périmètre d'action à la lisière de la loi pour ceux qui souhaitent le faire.
Et j'imagine, quand vous décidez de ça, Cécile Marchand, que vous vous dites, est-ce que ce sera populaire? Est-ce qu'on sera soutenu? Parce que il y a quelque chose d'assez festif. Moi aussi, je vais me faire arrêter pour avoir dit ça, mais il y a rien de dramatique, on va dire. Ça aussi, je vais me faire arrêter, donc je l'enlève également. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose quel est le mot que je pourrais employer sans que ce soit mal interprété? Mais
joyeux.
Peut-être dans ce genre d'action, est-ce que ça fait aussi partie des choses que vous vous dites, pour que les gens nous suivent, il faut qu'on donne cette image-là?
Au-delà du type d'action qui est choisi, c'est la stratégie qui est développée. Mmh. C'est de se dire, ça sert à rien de prendre des risques juridiques si derrière, on va pas provoquer un débat dans la société, si derrière, on s'est pas prévalu en amont d'un soutien large de l'opinion publique.
Et donc, il faut qu'il y ait un sens, c'est ce que vous dites en fait.
Il faut qu'il y ait un sens, et c'est que dans ces conditions qu'on peut vraiment poser le débat qu'on veut poser finalement. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est légitime et qui fait sens derrière l'idée de faire de la désobéissance civile.
Bonsoir Blanche. Blanche, on vous a perdu ?
Pas du tout.
Ah, vous voilà. On vous écoute, Blanche, allez-y.
Oui, simplement, parce que, du coup, il y a tellement de choses qui ont été un petit peu approfondies et éloignées de ce que j'avais à dire. Je voulais simplement dire, j'espère que je ne termine pas le débat.
Si, mais je vous en prie.
Oh mince. Et simplement, moi voilà, pour me présenter, j'ai 55 ans et une fille qui a 11 ans. Et alors, on est hyper mobilisés. Mais moi, je me dis, j'ai la culture syndicale traditionnelle, je ne suis pas syndicaliste. Simplement cette culture-là. Et d'autre part, je participe aux marches également, éventuellement. Et je me dis qu'il y a un enjeu absolument essentiel à ce que les uns et les autres se rejoignent. Il y a une continuité historique de l'histoire des mobilisations dont ces jeunes peuvent profiter. Il faut absolument se parler à une autre dimension. Il me semble que samedi, il y avait plus d'adultes que de jeunes vendredi, ou je me trompe.
Bien sûr.
Bon,
il y avait des jeunes vendredi, des moins jeunes samedi.
Et dernière chose, l'autre chose, c'est que je crains un autre truc. C'est l'opportunisme un petit peu du gouvernement qui pourrait faire que de tellement focaliser sur les jeunes qui vont donner des leçons aux adultes, les culpabiliser, etc., fasse qu'on discrédite toutes les mobilisations professionnelles, des syndicats professionnels et généralistes. C'est-à-dire discréditer un peu plus les générations plus âgées.
Merci pour votre question, merci pour avoir été concise, Blanche, puisqu'effectivement on arrive à la fin. Je vous ai vu presque lever le doigt, Yann Levan, sur ce que disait Blanche à l'instant.
En fait, oui, simplement pour lui dire que la jonction, elle existe, puisque une des données qu'on trouve à l'intérieur de nos questionnaires, c'est le fait qu'il y a quand même une connexion entre la gauche politique le mouvement climat, même si les mobilisations se présentent comme étant citoyennes. Il y a peu de personnes qui participent à ces mobilisations qui viennent de la droite ou qui s'estiment être de droite, et suivant les mobilisations, entre 75 et 80% des personnes qui s'estiment être de gauche ou qui votent pour des candidats de gauche.
C'est intéressant quand on entend Blanche dire, il faut faire attention aussi, mais chacun en fait, à ne pas décrédibiliser les mouvements dits, j'allais dire normaux en fait, c'est-à-dire les mouvements syndicaux, les mouvements classiques. Est-ce que parfois une méthode peut manger l'autre en fait, si on y prend garde ou pas? Yann Lelane, à votre avis?
Ah bah, de toute façon, les gens se mobilisent dans un cadre qui leur est donné. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de la répression policière, de la destruction du cadre de négociation collective. Le fait qu'il n'ait pas les outils classiques pour pouvoir se mobiliser, négocier ou alors négocier salarialement ou alors organiser la bifurcation écologique, ça montre qu'ils sont à la recherche de nouvelles modes d'action. Simplement, cette recherche, elle se fait à partir des cultures politiques du passé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture définitive entre les cultures. Là, on parlait des cultures syndicales, politiques. Il y a des formes de continuité, même si le mouvement se présente comme un mouvement de jeunesse, spontané, etc. Il y a des continuités culturelles très fortes entre ces anciennes formes et les nouvelles formes.
Très rapidement, les manifs d'aujourd'hui sont pollués et discrédités par la violence. Pourquoi des deux côtés, nous dit cet auditeur. Alors pourquoi ne pas manifester sur les périphériques? Comme ça, il n'y aura pas de problème de casse et ça mettra beaucoup de gens dans l'embarras. Boycott massif au niveau de l'économie. Et c'est marrant comme effectivement, à chaque... pas forcément génération, mais peut-être chaque lieu aussi une forme particulière. On verra bien comment ces choses-là évolueront. Je vous remercie beaucoup. Il est déjà 20h sur France Inter.